France Culture.
Bonjour à toutes et à tous. Le salon de l'agriculture s'ouvre sans vache et en pleine crise agricole. Emmanuel Macron a reçu une partie des syndicats ce matin. Il reste sous la pression de la Confédération paysanne et de la Coordination rurale qui parlent déjà d'un salon de la souffrance. Nous serons sur place. Manifestation sous tension à Lyon ce samedi en hommage au militant identitaire Quentin Derenque et à l'appel de divers groupuscules d'extrême droite que nous décrirons avec notre invité Samuel Bourron, maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine. Enfin, un revers avant la riposte pour Donald Trump, ses droits de douane balayés par la Cour suprême, mais il en reste sur l'automobile par exemple, et la Maison-Blanche dégaine déjà une nouvelle taxe.
Oui, aux côtés du président, sans surprise, cependant la FNSEA et les jeunes agriculteurs.
Emmanuel Macron ce matin avec un message d'unité. Tous les syndicats sont bienvenus derrière le ruban. Je verrai avec la ministre en bilatéral chacun des syndicats. Tout le monde doit être derrière la ferme française. C'est un moment où l'unité doit prévaloir. Message en visite du salon de l'agriculture ce samedi matin. Il y a rencontré l'éleveur martiniquais André Prosper, dont la vache Biguine devait être l'égérie du salon. Mais elle n'est pas là comme tous les autres bovins. La faute à l'épizootie de dermatose nodulaire, un combat que la France est en train de gagner durablement, a affirmé le président de la République, président chahuté par les syndicats malgré les appels au dialogue. La Confédération paysanne a refusé de le rencontrer. Delphine Schitz, bonjour. Ce matin, l'Élysée annonce tout de même que la FNSEA, les jeunes agriculteurs et même la coordination rurale qui menaçaient de se mobiliser ont été entendus par l'Élysée et par la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard.
Oui, aux côtés du président, sans surprise, cependant, la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui s'opposent en syndicat constructif. Nous regardons vers l'avenir, avance Pierrick Aurel, président des jeunes agriculteurs.
On n'a pas un double discours, non. On ne va pas dire que c'est une crise qui est très grave. Et de l'autre côté, après, aller prendre la photo, couper le ruban et compagnie, avec le grand sourire, et l'agriculture va bien. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaches au salon, pas une gestion de la crise DNC qui est catastrophique. Et il n'y a pas de solution d'urgence pour sauver les filières qui vont mal et une vision sur le long terme pour nous redresser. Voilà.
Mais face à l'urgence, la coordination rurale a finalement ouvert la porte à une rencontre commune avec les autres syndicats en définissant ses priorités.
Il y a les décrets de la loi du plomb qui doivent tous sortir et la loi d'urgence qui doit être passée au Parlement en première lecture le plus rapidement possible, c'est-à-dire au mois de mars. Il faut revenir sur le calendrier.
Seule la Confédération paysanne réitère son boycott. Son porte-parole Thomas Gibert dénonce une gestion insupportable entre gouvernement, FNSEA et JA.
Il n'y a plus que la FNSEA qui se retrouve à la table d'Emmanuel Macron. Donc ça lève le voile en fait sur comment sont gérées les politiques agricoles en France, à savoir uniquement sous le prisme des dirigeants de la FNSEA, de l'agro-industrie et du libéralisme.
Le syndicat minoritaire compte peser sur la loi d'urgence agricole qui ne sera présentée au Parlement qu'en juin prochain pour avancer sur le revenu des agriculteurs et les prix minimum garanti qu'Emmanuel Macron avait déjà promis en 2024.
Delphine Schitz au Salon de l'Agriculture pour France Culture. À Lyon, ils seront 2000 à 3000 militants d'extrême droite à défiler ce samedi pour rendre hommage à Quentin Derenque, ce militant identitaire mort après avoir été roué de coups le 12 février dernier, en marge d'un affrontement entre groupes antifascistes et militants du collectif d'extrême droite Némésis. Plusieurs rassemblements se sont déjà tenus hier soir, au Mans, à Nice, d'autres ont lieu à Rennes ce matin, où l'extrême droite défile face à l'extrême gauche, avant un autre cortège identitaire à Strasbourg cet après-midi. Mais c'est bien à Lyon que se concentre l'attention des politiques et des autorités. La préfecture du Rhône a autorisé le défilé pour mieux en assurer le tracé et éviter des affrontements avec des militants antifascistes dans une ville bastion de l'extrême droite française historique. Quand le monde politique s'en écarte, lui, y compris le Rassemblement national qui n'a pas souhaité s'y associer. Pour évoquer ces manifestations, l'invité de ce journal, Samuel Bourron, bonjour. Vous êtes maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Dauphine, PSL, membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Est-ce que vous êtes avec nous ?
Je suis là.
Première question simple pour vous, que sait-on finalement de ces groupuscules d'extrême droite qu'on retrouve aujourd'hui pour défiler à Lyon ?
Alors on sait qu'on n'est pas ici face à un collectif spontané né de cette mobilisation. C'est plutôt un milieu militant qui est déjà très structuré, avec un noyau organisateur qui gravite autour d'un groupe qui s'appelait Lyon Populaire, qui est un groupe nationaliste révolutionnaire, désormais dissous, qui était lui-même une recomposition du bastion social. Et autour de ce noyau viennent s'agréger différentes composantes de l'extrême droite, on va dire extra-parlementaire, On retrouve le collectif identitaire Némésis, on retrouve des militants de l'Action française, on retrouve les anciens réseaux de génération identitaire qui s'appellent aujourd'hui les Natifs. Donc on a un peu les 50 nuances de l'extrême droite, hein, et la marche d'ailleurs aujourd'hui présentera un bon recensement de ces groupuscules, puisque au-delà de l'extrême droite locale, notamment lyonnaise, des activistes de toute la France ont annoncé participer aux manifestations de Lyon et Rennes. Et à vrai dire, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est moins la diversité des étiquettes d'extrême droite que vraiment l'interconnaissance entre ces groupes. Et d'ailleurs, le parcours militant de Quentin Doran, en est un témoignage, parce que lui-même était passé et avait des liens avec plusieurs de ces groupes. Et Lyon, c'est une ville qui est un bon exemple, un bon cas de cette proximité entre ces groupes, qui est vraiment un petit monde, avec des sociabilités communes. On retrouve certains supporters de l'Olympique Lyonnais, notamment les Bad Gones, on retrouve des syndicalistes étudiants, notamment autour de l'Université Lyon 2, on retrouve certaines communautés catholiques, traditionnalistes. Donc ce sont des militants qui sont en fait sociologiquement assez proches. Et en plus, leurs rivalités se sont atténuées, notamment depuis les mobilisations de la Manif pour tous en 2012-2013. Ça a constitué vraiment un moment, on pourrait dire, d'alignement idéologique autour de l'idée qu'il y aurait un grand remplacement et de l'idée de défendre notamment les racines chrétiennes de la France. Et puis, à cela s'ajoute vraiment une décennie de dissolution d'organisations, l'œuvre française, les jeunesses nationalistes révolutionnaires. Et ça, ça a contribué à recomposer les réseaux plutôt qu'à les faire disparaître. Bref, en fait, cette marche, c'est vraiment la réunion d'un écosystème militant local et recomposé davantage qu'une mobilisation large.
Question autour des liens peut-être avec l'extrême droite parlementaire. Je le disais, le RN s'en est écarté, en tout cas officiellement. Certains militants du Lyon Populaire, ce groupuscule néofasciste que vous avez nommé, font partie de l'organisation du RN, notamment un attaché parlementaire d'une députée RN. Mais quel lien on peut tisser avec le Rassemblement National? Paradoxalement, les groupes identitaires que vous avez cités, celui de Némésis aussi, semblent gagner en respectabilité.
Oui, alors c'est vrai que le Rassemblement National entretient vraiment historiquement une relation assez ambivalente avec ces milieux groupusculaires d'extrême droite. Publiquement, il s'en distingue parce que il est engagé dans une stratégie de normalisation électorale et en même temps, il continue d'évoluer dans le même espace idéologique et sociologique. En fait, le RN, notamment depuis l'arrivée à sa présidence de Marine Le Pen, cherche à apparaître vraiment comme un parti de gouvernement. Et ça implique pas du tout la même stratégie que ces groupuscules qui, eux, vont vraiment rester dans une culture de l'activisme, de la rue. Ils entendent même parfois construire des contre-sociétés. Alors certes, ils peuvent partager avec le RN certains thèmes et certains diagnostics, mais ils vont davantage jouer sur la promotion d'une transgression, d'une radicalité pour attirer à eux et pour mobiliser des militants. Et ça peut se traduire par une certaine esthétique ou certaines références au fascisme, ouais. Parfois l'usage de la violence. C'est aussi ce qui soude le groupe, là où le RN cherche encore une fois la respectabilité institutionnelle. En fait, c'est vraiment les deux niveaux d'une même galaxie, mais c'est pas la même stratégie et ça donne des directions communes, des directions différentes entre le RN et ses groupuscules d'extrême droite. Et en même temps, on n'est pas dans une étanchéité totale. Il y a une circulation idéologique, il y a aussi une circulation des individus, puisque on continue de retrouver, même si le Rassemblement National s'en défend, certains assistants parlementaires, notamment qui viennent de ces groupuscules, et puis certains candidats aux élections qui sont aussi passés par ces groupes.
Mais c'est bien noté. Merci beaucoup, Samuel Bourron. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sociologie à l'Université de Paris-Dauphine PSL, membre de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et merci à Louise Guérin pour la préparation. Donald Trump a perdu la bataille des droits de douane, mais certainement pas la guerre commerciale. Le président américain a souffert d'un revers cuisant hier. La Cour suprême, pourtant conservatrice, jugeant illégale la plupart des droits de douane imposés par la Maison-Blanche. Mais cette défaite ne marque pas la fin de cette politique économique agressive, car Donald Trump annonce dans la foulée un nouveau droit de douane de 10% et pour 150 jours au moins. Pour Sébastien Jean, professeur d'économie au Conservatoire national des arts et métiers, le président républicain ne devrait pas changer de cap. On l'écoute au micro de Rachel Escolano.
Ça demande de changer le fusil d'épaule d'une certaine façon et donc d'utiliser d'autres lois s'ils veulent maintenir leur protection douanière, ce que Donald Trump a déjà entrepris et ce qui probablement est ce qui va se passer. Ça n'est qu'une étape en fait. C'est d'autres lois encore, il y en a beaucoup dans l'arsenal juridique américain qui sera utilisé pour prolonger ses droits de douane. Ce qui est clair, c'est que les droits de douane, c'est une obsession pour Donald Trump qui ne va pas arrêter d'en utiliser parce que il a été démonté sur l'utilisation de cet instrument particulier. Je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement les données du problème de la relation commerciale transatlantique. On a l'accord qui a été signé cet été, qui est en cours de ratification par l'Union. Je pense que les Européens sont très prudents dans toute tentative d'essayer d'utiliser ce jugement. Ça renforce un peu leurs mains, leur position de négociation par rapport aux États-Unis, mais je ne crois pas que ça change radicalement la nature du problème.
Ces droits de douane retoqués sont donc un bon signal plutôt qu'une révolution pour l'Europe. Illustration en Allemagne, où la satisfaction a vite fait place à la circonspection, car les industriels locaux très exportateurs de l'automobile et de la sidérurgie ne sont pas concernés par la décision défavorable de la Cour suprême. Correspondance à Berlin de David Philippot.
C'est un signal fort et clair, a réagi la Fédération des industries. C'est la fin du one-man show de Trump, a triomphé un économiste du Parti social-démocrate, car les droits de douane imposés par le président américain ont fortement pesé sur la fragile économie allemande. Ses exportations vers les États-Unis ont chuté de presque 10% l'an dernier, mais une fois la satisfaction et le soulagement exprimés, les Allemands ont analysé le jugement et ses conséquences pour s'apercevoir, un, que les droits de douane supplémentaires de 15% pour Audi, Mercedes et compagnie devraient être maintenus car ils reposent sur une autre base juridique non contestée par la Cour suprême, c'est le Trade Expansion Act, et deux, même tarif pour les autres piliers de l'économie allemande que sont la sidérurgie, la chimie ou la pharmaceutique. Et le journal économique Handelsblatt craint même, au vu de la réaction courroucée de Donald Trump, que le nouveau régime douanier soit encore plus draconien que l'ancien.
David Philippot à Berlin pour France Culture. 8 membres du Hezbollah ont été tués hier dans l'est du pays. Israël affirme avoir visé des centres de commandement au Liban du mouvement ainsi que du Hamas palestinien. Elles ont fait 12 victimes en tout. Le président libanais a condamné les frappes. Depuis le cessez-le-feu acté en novembre 2024, le Liban mène un plan pour désarmer le Hezbollah. Pas assez vite au goût de l'État hébreu. Une intelligence artificielle sûre, digne de confiance et robuste, c'est le vœu formulé par des dizaines de pays, dont la Chine et les États-Unis. Déclaration signée à l'issue du sommet sur l'IA à New Delhi, en Inde. Ils appellent à instaurer la confiance et maximiser les bénéfices sociaux et économiques. Enfin, en Chine, les festivités du nouvel an lunaire se poursuivent ce week-end. Et parmi les vedettes, des robots humanoïdes devenus des incontournables de ces spectacles. Après le gala de la télévision chinoise, vu par plus d'un milliard de téléspectateurs à travers le monde, une frénésie s'empare du pays, comme ici, dans la province du Fujian, dans le sud du pays, où s'est rendu notre correspondant Sébastien Berriot.
Des milliers de touristes chinois patientent ce soir sur le front de mer de Xiamen. Le spectacle du Nouvel An démarre. Avec ses traditions, les marionnettes à fil, spécialité ici de la province du Fujian, la danse du dragon avec ses costumes multicolores. Mais ce qui intéresse le public ce soir, ce sont les robots humanoïdes que tout le monde attend. Eux aussi commencent à danser, une quinzaine de robots, adultes et enfants, recouverts de costumes traditionnels. Une prestation sans faute, encadrée par une équipe de techniciens qui, à l'arrière, devant leurs ordinateurs, surveillent les figures pratiquées par les robots. Le public est conquis. Amazing. C'est incroyable, nous dit ce garçon, la technologie va très vite et la Chine est très forte. C'est impressionnant et amusant, ajoute sa voisine, ils sont très intelligents, même si je n'utilise pas encore ces robots dans ma vie quotidienne. Et le clou du spectacle, des robots chiens qui entrent désormais en scène avec leurs costumes. Quand la plus pure tradition du Nouvel An est envahie par les nouvelles technologies, mais le public chinois est conquis et en redemande.
Sébastien Berriot. Le temps de ce samedi après-midi, très doux encore sur la grande majorité du pays. Une moitié nord nuageuse et pluvieuse dans la soirée, des éclaircies dans la moitié sud. Comptez 14 degrés à Paris, autant à Biarritz et à Nice. Il fera 9 à Mulhouse et Aurillac. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par Brice Garcia et mis en ondes par Julien Moulet.
France Culture.
Le constat est unanime. La santé mentale des jeunes se dégrade dans notre pays et les moyens pour répondre à ce mal-être n'ont jamais été aussi réduits.
Marina Carrère d'Encausse.
Alors de quoi souffrent les jeunes et pourquoi ? Quel est le rôle des écrans et des réseaux dans leur mal-être ? Que peut-on proposer à ces jeunes en difficulté et peut-on prévenir ces troubles ? Réponse dans Carnet de santé mentale, le podcast, en 6 épisodes.
Santé mentale des jeunes, une série de podcasts à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
La conversation scientifique, c'est l'occasion de découvrir à propos d'un sujet particulier ce que l'on sait.
Étienne Klein.
Et aussi ce que l'on sait ne pas savoir.
La conversation scientifique, chaque dimanche à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Midi et presque 46 minutes sur France Culture, c'est l'heure de Sans Préjugés avec Nathan Dever. Bonjour Nathan, c'est à vous.
Merci Valentin Gris, nous vous retrouvons bientôt pour un prochain journal.
France Culture, Sans Préjugés, Nathan Dever.
Alors que les Jeux Olympiques d'hiver s'achèveront bientôt, et par-delà le plaisir que nous avons pris à regarder à la télévision les skieurs s'affronter, la question de la nature de cet événement mérite d'être posée. Le sport peut-il être transformé en spectacle sans se dénaturer ? Encore faudrait-il savoir en quoi consiste au juste cette étrange activité par laquelle le corps éprouve une jouissance étrange, teintée de souffrance, en repoussant les limites de sa propre puissance. Le sport découle-t-il de l'esprit de compétition, voire d'une sublimation pacifiée de la pulsion de guerre ? Si l'important n'est pas de gagner mais de participer, l'entraînement physique marque-t-il au contraire un moment de grâce où l'athlète se réconcilie avec lui-même ? Il se pourrait ainsi que malgré sa commercialisation et ses multiples instrumentalisations politiques, le sport abroge toute distance entre la transcendance du corps et celle de l'esprit, offrant une expérience de réconciliation avec sa propre chair. Y a-t-il une religion du sport ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés du philosophe Jean-Luc Marion et de l'historien Julien Saurès.
France Culture, Sans Préjugés, Nathan Dever.
Bonjour Jean-Luc Marion.
Bonjour.
Alors permettez-moi pour une fois de vous présenter de façon très subjective.
Oui.
Vous êtes le premier philosophe contemporain que j'ai lu. Vos certitudes négatives en terminale, l'ontologie grise, la théologie blanche de Descartes et tant d'autres livres. Vous êtes philosophe, ancien professeur à la Sorbonne et à l'Université de Chicago. Et vous publiez récemment La raison du sport aux éditions Grasset. Bonjour Julien Saurès.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'histoire du sport. Et vous publiez « Le sport en procès » chez CNRS Éditions. Alors, Jean-Luc Marion, dans La raison du sport, moi je savais, en tant que j'ai eu l'occasion d'assister à certains de vos cours, que vous aviez deux corpus que vous connaissez par cœur, les éditions à Dantannerie de Descartes, et puis l'équipe que vous lisez également religieusement. Et dans La raison du sport, vous racontez que vous avez eu une activité sportive très, très développée, qui a failli être professionnelle, et que Bassonville, votre entraîneur, vous a dit « tu es bon, mais pas très ». Et que de cette révélation-là, vous avez décidé d'intégrer l'école et d'entrer en philosophie. La première question que je voulais vous poser, c'est comment cette passion du sport, cette vocation du sport, s'est mêlée, ou ne s'est pas mêlée d'ailleurs, à votre pratique et votre vie philosophique ?
Le sport, pour moi, c'est comme pour beaucoup. D'abord, c'est un amusement. On découvre que dans une spécialité ou une autre, on a un petit don. Et ça, c'est un choix. On décide de travailler ce don. Alors, moi, je l'ai fait en scolaire. Et puis, je me rappelle, c'était le chef des étudiants communistes du lycée de Sèvres, avec qui nous étions par ailleurs en rivalité, qui m'avait traîné... qui était un très bon coureur, qui m'avait traîné au Stade français. Et j'ai commencé dans l'équipe cadet junior du Stade français, qui était très bonne à l'époque. Et on s'est tiré une bourre terrible avec le racing. J'ai commencé à courir un peu sérieusement. Enfin, du moins, c'était très sérieux pour l'âge que j'avais. Et j'ai découvert beaucoup de choses. La première chose que j'ai découvert, c'est que il n'y a pas de frontière entre le possible et l'impossible. Ça, c'est une expérience fondatrice pour moi. C'est-à-dire, on commence toujours pour avoir un record personnel minable, ce qui est normal. On s'entraîne, si on décide de faire les choses sérieusement, pour battre ce record personnel. Plus on s'entraîne, plus on a l'impression que le record personnel est un Himalaya. C'est-à-dire, en un sens, on se construit l'impossibilité mentalement. Et puis, un jour, après beaucoup de ans, beaucoup de l'avoir bavé comme un cochon, un jour, on ne sait pas exactement pourquoi, en compétition, on bat son record personnel. Et plus ça a été difficile, plus c'est une libération. Et plus c'est l'expérience que, quand on dit quelque chose est impossible, non seulement c'est pas français, mais c'est pas sportif, la notion d'impossibilité, qui est pourtant une catégorie métaphysique fondamentale, la distinction entre le possible et l'impossible, il n'y a pas que Kant, tous les philosophes pensent qu'il y en a une, eh ben les philosophes se trompent peut-être, Kant se trompe peut-être. Faut dire que Kant, il marchait, hein, courait pas. Une grosse différence. Et donc, j'ai découvert ça. Alors évidemment, comme vous racontez, à un moment, comme mon interlocuteur, il y a un moment où on se décide à faire des études sérieuses, et à ce moment-là, le sport prend trop de temps, fatigue trop, pour qu'on puisse faire les deux. Alors j'avais posé la question à celui que j'appelle Bassonville ici, je ne sais pas s'il est mort d'ailleurs, c'était une brute, mais une brute très intelligente et un très bon entraîneur. Un adjudant-chef de la Légion, quoi. Il s'appelait Dassonville. Et je demandais à Sanville, qu'est-ce que je peux espérer? Il m'a dit, tu es bon, mais pas très. C'est cette phrase fondatrice. Et donc, j'ai décidé de faire de la philosophie où j'espère que je suis plus que bon, pas très.
Julien Sorès, je ne sais pas si vous êtes bon, pas très en sport, mais toujours est-il que vous n'avez pas scindé votre vie intellectuelle et votre passion du sport, puisque vous vous êtes spécialisé en tant qu'historien sur le sport, en tant qu'objet. Qu'est-ce qui vous a amené, dans votre évolution universitaire, dans votre parcours universitaire,